Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
On a le plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode de La Kabbalah. Et là, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler des niveaux de conscience.
Voilà, on y va. Alors, dans cette 13e chronique, nous allons aborder les quatre principaux niveaux de conscience. Il est essentiel d'intelliger ces différents aspects de la conscience pour mettre de l'ordre dans notre langage et clarifier notre pensée. La Kabbalah va nous décrire comment la conscience émerge de la proto-matrice où elle est immergée dans l'être, indistincte, comme en repos, comme dissoute dans sa propre plénitude. Ce n'est qu'en franchissant un seuil, lorsqu'une direction interne va apparaître, qu'elle va s'exprimer, devenir active, structurante et génératrice de forme. Ce déséquilibre interne va lui permettre d'entrer dans un processus de révélation et de différenciation. En devenant organisatrice, elle va se formuler en termes d'axes, de codes, de niveaux vibratoires, qu'elle mettra en relation et fera dialoguer. Elle se structure elle-même comme une architecture vivante à quatre niveaux, par lesquels et en lesquels l'être se mire, se réfléchit progressivement, jusqu'à devenir expérience dans l'humain. Souvenez-vous, dans la dernière chronique, la Kabbalah nous a bien démontré que la conscience ne naît pas dans l'humain, que ce n'est pas lui qui la produit, puisqu'elle le précède et le fait apparaître. Cela nous demande d'opérer un changement de paradigme, alors n'hésitez pas à réécouter la chronique intitulée « Kabbalah et science des codes ». Reprenons. La conscience traverse ainsi quatre niveaux principaux d'expression avant de se connaître elle-même dans la psyché. La Kabbalah décrit donc précisément comment le champ indifférencié se structure progressivement jusqu'à devenir une expérience subjective. Avant de vous présenter la cartographie des niveaux de conscience, faisons un petit rappel. Les niveaux ne décrivent pas des lieux, ni des étages dans l'univers ou dans un ailleurs. Ils sont coexistants dans une même réalité non spatiale. Ils sont des modalités simultanées de la conscience, présente entre guillemets au même endroit, parce que le champ n'est pas un espace. Les niveaux sont déjà là, simultanés, et c'est la conscience qui, en se focalisant, les perçoit comme distinctes. C'est donc bien la focalisation de notre psyché qui les fait apparaître séparés. Cette apparente séparation n'est pas une illusion. C'est une nécessité de la conscience que de distinguer ce qui, en réalité, demeure simultané. C'est un besoin de la conscience pour pouvoir se reconnaître, se rendre perceptible à elle-même, et cette pseudo-séparation n'est en fait qu'un outil de perception. La conscience discrimine pour pouvoir se connaître. Le code donné par la Kabbalah, qui devient, hélas, dans les traductions, le mot « séparation » est si clair qu'on ne peut s'y tromper. La séparation n'est pas une rupture du réel, mais le code par lequel l'un devient lisible. C'est la conscience qui se retourne vers elle-même et par ce pli, ce repli, elle institue une distinction interne qui rend possible la structuration sans jamais rompre l'unité du champ. La séparation est donc un code opératif qui ne divise en rien l'être un. C'est le code minimal pour que quelque chose apparaisse au lieu de rester fondu dans l'indistinct. Les traductions de ce code ont introduit des concepts faussés et ont induit dans l'inconscient collectif de terribles déviances à l'origine de tous nos conflits, de nos formatages et de nos identifications, de toutes les formes d'égoïsme. Nous nous croyons séparés du champ, des autres, de la nature, des espèces, de l'écosystème. Séparation des frontières, des genres, des pseudo-races, séparation dans le temps linéaire, séparation à l'intérieur de notre propre architecture corporelle entre nos plans du mental, nos plans émotionnels. Notre perception du corps physique se morcelle. On arrive à de telles incohérences qu'un médecin peut nous traiter comme un organe en négligeant, la réalité de l'homéostasie et de la personne humaine que nous sommes, etc., etc. Allons maintenant observer nos quatre niveaux de conscience. Voici le premier niveau que la Kabbalah nomme conscience première. Ce n'est pas une conscience de quelque chose. C'est la condition même pour qu'une conscience soit possible. Elle ne perçoit pas, elle ne se perçoit pas. Elle n'est pas localisée, elle n'est pas encore champ. Elle correspond au code de l'océan de lumière, Or En Sof, la lumière sans fin, indéfinissable. Ce n'est pas encore une architecture, mais c'est bien la possibilité pure de toute architecture. Il n'y a ni plan, ni sujet, ni objet. Rien n'est différencié, mais tout est là en puissance. Et voici la protomatrice. Elle peut être comprise comme une membrane ontologique, non pas un lieu ni une frontière, mais une zone de modulation où l'océan de lumière infini se fait interface. Trace de l'infini, empreinte de mémoire originelle, zone de pré-structuration, prête à être ensemencée pour donner naissance au champ structuré. C'est une zone de pré-organisation entre l'infini et le champ. On emploie le mot membrane pour la définir, parce qu'une membrane ne sépare pas, ne crée pas deux mondes, mais permet le passage, la modulation, la transformation alchimique. Le code traduit par membrane exprime ce qui permet à l'infini, à une réalité non saisissable, de devenir perceptible sans cesser d'être ce qu'elle est, sans se fragmenter. Je vous ai décrit les membranes dans les récits de mes EMI. La protomatrice est la mémoire de toutes les structures possibles avant leur apparition. Le champ n'en est que l'actualisation dynamique. Voici maintenant le deuxième niveau, celui de la conscience universelle qu'on appelle le champ. Ici apparaît le retournement réflexif. La conscience ne sort pas d'elle-même, elle se réfléchit. C'est la naissance du champ structuré. Son code révèle une conscience cosmique structurée. La conscience y devient architecture, avec ses plans, ses lois, ses fréquences. Elle s'organise en monde fréquentiel et vibratoire. Ici, toujours aucun individu, aucun moi, mais une organisation complexe et complète existe. La mémoire se propose à devenir lisible. C'est la caractéristique du champ structuré. J'insiste, le champ structuré n'est pas un lieu, c'est l'organisation intelligible de la conscience lorsqu'elle devient perceptible. Le champ n'est pas fait de matière, mais de relations, de lois et de cohérence qui rendent l'expérience possible. C'est la trame invisible qui relie tout. Le champ ordonne sans occuper d'espace. C'est comme une architecture de correspondance grâce à laquelle la conscience peut se réfléchir en toutes les formes multiples d'elle-même, en toutes ses propres formulations. Dans le champ structuré, rien n'est isolé. Chaque élément existe par sa relation aux autres. Ce champ est structuré parce qu'il obéit à des principes d'organisation stables que la Kabbalah décrit à travers les relations entre les lettres, les séphirotes et les mondes. Le champ structuré est l'ordre invisible qui rend l'expérience consciente possible. Et voici le troisième niveau, celui de la conscience individuelle, la psyché. La conscience individuelle apparaît lorsque le champ se focalise. Une zone de cette architecture devient un miroir local capable de se percevoir. Ce que nous appelons « moi » n'est pas une entité séparée, mais un point de focalisation où le champ se réfléchit de manière précise. La psyché est cette zone du champ où la conscience se condense suffisamment pour devenir expérience personnelle. L'individu n'est pas en dehors du champ, il est l'endroit où le champ apprend à se voir lui-même. La conscience individuelle naît quand une portion du champ devient suffisamment cohérente pour servir de surface de réflexion. L'individu est le point où le champ devient miroir de lui-même. Il est comme une lentille dans la lumière. Sa psyché focalise le champ et fait apparaître une expérience singulière. Lorsque la conscience universelle se focalise en conscience individuelle, il ne se produit aucune séparation. L'être un se déploie en une multiplicité de miroirs, comme une figure fractale qui se répète à toutes les échelles. L'individu n'est pas détaché de l'universel, il en est la réplique locale, selon le principe des fractales, où chaque partie porte la structure du tout. Ce passage du global au personnel n'est pas une division, mais une démultiplication du même motif de conscience. La conscience individuelle est au champ ce qu'une fractale est à sa figure d'origine, une expression complète mais à une autre échelle. Et comme le motif se répète à l'infini, la conscience universelle se décline en conscience individuelle sans jamais se fragmenter. La Kabbalah possède plusieurs codes pour exprimer la conscience individuelle, sa nature et sa fonction. Sri Aurobindo, dans son œuvre maîtresse, La vie divine, en fait une description très approfondie, psychologique, physique et métaphysique, qui se calque parfaitement sur les codes Kabbalah. Ce serait trop complexe de les aborder ici. Et voici le quatrième niveau, celui du moi de surface. Il apparaît de la densification la plus intense, de cette dernière contraction où le point focal se prend pour le centre et l'origine. Naît alors le moi, ou du moins ce qui s'affirme en tant que moi. Sri Aurobindo écrit « Le moi de surface est ce qui apparaît quand le mental, le vital et le corps fonctionnent sans être reliés à l'âme psychique. » Je vous proposerai sans doute une chronique sur ce thème pour explorer les différences entre la psyché, l'ego et le moi de surface. Cette étude est fondamentale pour conscientiser ce qu'est la nature humaine et sa fonction dans le grand cycle de la conscience et de la révélation de l'être que nous sommes de toute éternité. Identifiée au moi de surface, la conscience se confond à son point de vue, à ses croyances, à ses certitudes. C'est là que la dualité touche au paroxysme. Le mental et le vital se font instruments du moi, ce qui fabrique une réalité collective et individuelle où tout est vécu en termes de séparation d'intérieur et d'extérieur. Tous les petits moi se vivent comme des entités séparées. La mémoire du champ, au mieux, s'estompe, cachée par des voiles plus ou moins épais et déformants, et au pire, la mémoire du champ disparaît dans une amnésie quasi totale. Pourquoi pas totale ? Parce qu'une petite lueur subsiste toujours. La conscience égocentrée, bien que nécessaire à l'expérience, sinon elle n'existerait pas, se vit coupée de toute l'architecture qui la porte, Le moi se prend même à ce stade pour l'origine de la conscience. Il arrive même à croire que son cerveau est le producteur de la conscience. Tombé dans l'ignorance, il ne perçoit plus qu'il est la dernière contraction d'une conscience infiniment plus vaste dont il a oublié la source. Heureusement, la révolution de la conscience est en marche. Le mot « révolution » ne veut-il pas dire « retournement », »,« retour sur soi » ? Le temps de l'ignorance est révolu. La conscience n'est plus appelée à subir le monde, mais à se reconnaître comme le principe même qui le structure et à agir en connaissance de ses propres lois.
Merci Jordan et à la semaine prochaine.
Merci Patrick, à bientôt.